dans le nord de la Yougoslavie, parmi les minorités roumaines. C'est un coin très pauvre. Les gens sont dans la misère, mais là, ils ont gagné des dizaines et des dizaines et des dizaines d'âmes à Jésus-Christ en proclamant le merveilleux évangile. Elle dit toujours que c'est dans cette assemblée de Toulon qu'elle y a reçu le zèle de Dieu, qu'elle y a reçu la vie de l'Esprit. Elle continue à travailler aujourd'hui encore. Le mois prochain, je serai à Belgrade, je vais la rencontrer et nous allons visiter des églises yougoslaves pour les encourager et pour les aider aussi. Non seulement en Yougoslavie, en Serbie, mais à l'île Maurice et à l'île de la Réunion. L'Assemblée de Toulon a envoyé quelqu'un, notre frère Aimé Cizeron, qui est là ce matin. Si vous saviez comment notre frère est parti dans le Saint-Ministère, vous n'en reviendriez pas. Je crois que c'est le seul serviteur de Dieu qui soit parti de cette façon dans le service du Seigneur. Mais peut-être lui vous le racontera cet après-midi s'il rend son témoignage. Évidemment, je ne vais pas parler de tous les autres. J'ai voulu sauter de la Manche en Yougoslavie jusqu'à l'île Maurice et l'île de la Réunion. Et nous avons tous ceux qui travaillent en France. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces amis-là. Nous avions dans cette assemblée de Toulon un homme qui a été un homme remarquable. Il s'appelait Monsieur Dumas. C'est ça? Je ne me trompe pas?
Numa.
Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Numa. Oui, c'est vrai. C'est qu'il y a 5 minutes, vous comprenez. C'était un homme remarquable. Il a été dans l'Assemblée un homme qui a apporté, par sa piété, par sa foi, par sa sagesse, il a apporté beaucoup d'équilibre dans l'Assemblée de Toulon. Je ne veux pas dire que cette Assemblée était déséquilibrée, mais lorsque les difficultés sont arrivées, que notre frère M. Weir a dû repartir en Suisse pendant quelque temps, eh bien, c'est notre frère M. Numa qui a pris la présidence de cette église. Il s'en est occupé comme un père de famille. Il a nourri l'Assemblée pendant les longs mois où notre frère M. Weir était en Suisse, obligé par les devoirs militaires, par la guerre. Il a donc été président de cette église, notre frère M. Numa. Mais aussitôt que notre frère M. Weir est revenu, il aurait pu lui dire: nous n'avons plus besoin de vous, cher frère. Nous pouvons nous satisfaire tout seuls. Je suis président, je reste président. Je nourris le troupeau, c'est suffisant. Surtout que cet homme avait des capacités, c'était un homme instruit, c'était un intellectuel, c'était un homme capable. Eh bien non, il s'est retiré. Il est resté président, oui, parce que notre frère, M. Kenneth Weir, était suisse. Il y avait un problème. On ne veut pas rentrer dans tous ces détails ce matin. Mais il a rendu aussitôt la responsabilité de l'Assemblée. C'est un modèle. Car des dizaines et des dizaines ont troublé des églises, mais lui non. Bien qu'ayant eu la responsabilité de l'Assemblée, au moment voulu, il a su la remettre entre les mains du serviteur de Dieu qui revenait de Suisse. Nous avons eu des sœurs qui nous ont aidés. Je pense toujours à une chère sœur, nous l'appelions Thérèse. C'est elle qui faisait notre nourriture le soir à M. Weir et à moi-même. Nous étions deux célibataires, bon à rien. cuisine, elle repassait notre linge. Et quelquefois, nous étions un peu durs avec elle. Pas moi, j'étais si bon, si doux. Notre frère, M. Ware, n'était pas toujours tendre. Et je me souviens d'un soir, elle nous servait gratuitement. Elle nous apporte un petit poulet qu'elle avait déniché, je ne sais où. Elle apporte ce poulet sur la table. Et notre frère, M. Ware, plante la fourchette dans le poulet. Et il me dit, il n'est pas cuit. Il appelle Thérèse qui était à la cuisine. Il lui dit, Thérèse, alors elle le craignait comme le feu. Il est arrivé en courant. Alors c'est sa sœur. Parce qu'elles nous ont servi toutes les deux, Aurore et Thérèse. Ah voilà, oui. Et alors il l'appelle, elle arrive. Il lui dit, vous et votre poulet à la cuisine. Mais il a beaucoup changé depuis, il n'a jamais plus fait une chose pareille avec sa compagne. Et nous avons aussi une inconvertie, mes frères, mes sœurs, que nous appelions Mademoiselle Marie. Elle nous a nourris pendant la guerre, cette inconvertie. Elle était vendeuse sur le cours, je ne me rappelle pas du nom.
Fayette.
Pour Lafayette. Elle craignait aussi M. Ware. Tout le monde avait peur de lui. Elle nous prenait tous les midis chez elle. Elle nous a nourris pendant bien longtemps, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Nous avons vécu pendant cette période des pages du livre des Actes des Apôtres. Nous avons vécu des pages des épîtres de Paul. Dieu nous a aidés. Dieu nous a secourus. Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, votre frère disait tout à l'heure, il y a hier, il y a aujourd'hui et il y a demain. Alors aujourd'hui, c'est l'assemblée de Toulon. Elle a environ 300 personnes qui fréquentent régulièrement le culte de louange et d'adoration. 500 personnes qui sont là pour les jours exceptionnels, comme aujourd'hui. C'est magnifique. Elle est une des plus grandes églises de d'autres régions et même du midi de la France avec trois lieux de culte. Pourrions dire aussi un mot de la Seine avec plus de 100 membres aujourd'hui. Du temps, de notre temps à nous, nous allions tenir des réunions à la Seine. Monsieur Ware et moi-même, nous prenions le bateau au port et nous allions directement à la Seine en bateau. Ah, c'était poétique, c'était formidable. On voyait toute la marine de guerre, la Méditerranée, l'escadre de la Méditerranée. Nous pourrions dire un mot aussi de l'Assemblée de guerre. Depuis Toulon, nous allions à guerre. Toutes les semaines, tenir des réunions. Aujourd'hui, 120 membres sont là et cette assemblée ne demande qu'à grandir et qu'à prospérer. Cette assemblée de Toulon, je l'ai entendu dire, vous confirmerez si c'est exact, fait beaucoup pour les enfants et pour la jeunesse. Cette assemblée à la pointe du combat pour les enfants, pour la famille, pour la jeunesse. Et c'est une bonne chose. Notre jeunesse actuelle, frères et sœurs, est une jeunesse malheureuse. Malheureuse parce qu'elle se trouve dans un désert. Elle se trouve dans un désert affectif. Elle se trouve dans un désert moral. Elle se trouve dans un désert spirituel. Et cette jeunesse a besoin de certitude. Elle a besoin d'être, comme on dit aujourd'hui, branchée Elle a besoin d'être câblée sur le divin et sur le spirituel. Notre jeunesse a besoin de cela. Ce n'est qu'en étant branchée sur le spirituel qu'elle sera heureuse. L'assemblée de Toulon, elle fait partie des assemblées de Dieu de France qui sont nées en 1930 sous l'impulsion du Saint-Esprit. Un homme est venu dans notre pays, il était anglais, appelé de Dieu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, possédant les dons spirituels, qui a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et depuis Marseille, où il est arrivé en 1934, il a ouvert la plupart des assemblées du Midi de la France. Nous remercions Dieu pour de tels hommes. Donc nous appartenons, vous appartenez, Assemblée de Toulon, à ce mouvement des Assemblées de Dieu de France. L'Église de Pentecôte, en France, est la seule qui soutient la comparaison avec l'Église réformée de France. C'est un pasteur réformé qui l'a écrit, je le lisais encore cette semaine, et il dit dans son étude que seules les assemblées de Pentecôte en France peuvent soutenir la comparaison avec l'Église réformée. Nous avons aujourd'hui 650 églises et annexes dans notre pays, avec 300 pasteurs et plus de 600 diacres, qui représentent environ 60 000 membres, plus 25 000 membres tsiganes. Ce qui fait pour notre pays 85 000 membres actifs, non pas des gens comme on les rencontre dans les églises de multitudes qui sont là pour leur baptême, pour leur mariage et pour leur enterrement, mais qui sont là chaque semaine pour servir Dieu, pour glorifier le Seigneur. Et les assemblées de France elles-mêmes appartiennent à la Convention mondiale des églises de Pentecôte. Et tous les trois ans, nous avons une grande convention. La dernière a eu lieu à Zurich, en Suisse. Et nous appartenons à ce grand mouvement de réveil suscité par le Saint-Esprit depuis le début du siècle. Et en moins d'un siècle, tenez-vous bien, essayez de vous souvenir de ce que je vous dis ce matin. En moins d'un siècle, ce mouvement de réveil a ouvert plus de 300 000 églises. Je dis bien, a ouvert plus de 300 000 églises. Et compte aujourd'hui 70 millions de membres actifs dans le monde. Et tout cela en moins d'un siècle, en 87 ans. C'est un miracle de Dieu. L'Église de Pentecôte, elle sera le phare du 21e siècle si le Seigneur tarde. S'il ne revient pas, il faudra compter dans les décennies qui viennent avec le mouvement de Pentecôte. Les 10 plus grandes églises du monde, autrement dit les 10 plus grandes paroisses du monde, je parle là d'églises locales comme Toulon, Nice, Marseille, etc. Les 10 plus grandes églises du monde, eh bien parmi ces 10, il y en a 3 qui sont pentecôtistes. Trois. La première est pentecôtiste. La plus grande église du monde aujourd'hui est pentecôtiste. Avec, on dit, autour de 400 000 membres. Je ne sais pas, 500 000, c'est peut-être un peu fort, mais disons 400 000, c'est déjà formidable. Autrement dit, toute la ville de Toulon avec ses banlieues. Une seule assemblée, c'est la plus grande église du monde, elle est pentecôtiste. La troisième plus grande église du monde est encore pentecôtiste, et la septième plus grande église du monde est encore pentecôtiste. Autrement dit, sur les 10, il y en a 3 qui sont pentecôtistes. Mes amis, c'est un réveil fulgurant. C'est Dieu seul qui peut faire un tel travail, un tel ouvrage. Ça, c'est l'œuvre de mon Dieu, c'est l'œuvre de son esprit, c'est l'œuvre de sa parole. Et que Dieu continue ce merveilleux travail. Un mot sur l'avenir maintenant. L'avenir appartient aux églises de professants. Et non pas aux églises de multitudes. La chrétienté telle qu'on l'a connue jusqu'à ces derniers temps, la chrétienté médiévale, constantinienne, c'est fini. Elle meurt de sa belle mort. Si une église doit rester debout, si une église doit progresser, c'est bien l'église des professants, de ceux qui n'ont pas une étiquette, pas une religion seulement, mais de ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Toutes les valeurs, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient commerciales, ne progresse qu'avec un engagement complet de la part de ceux qui les défendent. Je dis bien un engagement complet, complet dans la politique, complet dans le commerce, sinon on fait faillite. Eh bien, pour l'Église de Jésus-Christ, il en est de même. Il faut un engagement complet pour le Seigneur, un engagement complet pour son Église, un engagement complet pour la parole de Dieu, un engagement complet pour la vie de l'Esprit. Et alors, nous verrons cette Église encore et encore progresser. Cette Église n'a plus rien à voir avec l'État. Vous savez qu'un empereur romain, Constantin, avait tendu la main à l'Église et avait fourni des capitaux considérables pour que l'Église puisse aller à la conquête du monde. Mais aujourd'hui, cela est terminé. L'Église qui veut triompher, elle ne peut compter que sur ses membres fidèles. Des membres qui sont consacrés et qui ne donnent pas une piécette de temps en temps pour l'offrande, mais qui sont fidèles avec Dieu, fidèles avec Adim. J'en parle librement parce que je sais, ici à Toulon, vous faites des merveilles concernant les finance. Le protestantisme tel que nous l'avons connu jusqu'à cette heure est en train de s'effondrer complètement. Il est remplacé par les chrétiens professants, par les chrétiens engagés, par les chrétiens convertis, par les chrétiens actifs. Il y a 60% du protestantisme aujourd'hui qui est constitué par ce qu'on a coutume d'appeler les évangéliques, c'est-à-dire les chrétiens de profession, 60%. Il n'y a plus que 40% pour l'église traditionnelle, calviniste, luthérienne et autres. Et à la fin de ce siècle, il y aura 80% de chrétiens professants, engagés dans le service de Dieu pour porter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces églises-là, elles se veulent les héritières du christianisme primitif, qui ont des membres convertis à Jésus-Christ, qui ont des membres remplis de la vie du Saint-Esprit, qui ont des membres scellés pour Dieu. Vous savez, on a eu beaucoup de théologiens, mais la vente théologique est tellement contradictoire. Elle change à tout instant. Mais la parole de Dieu, comme le rappelait notre frère tout à l'heure, elle ne change pas. Elle demeure. Ta parole est la vérité. Alors nous n'avons que faire de toutes ces théories théologiques. Nous nous attachons à la parole de Dieu. Sola scriptura. Scriptura, disaient les pères de l'Église latine. Seule ta parole, seule ta parole, comme cela nous a été rappelé ce matin. L'avenir de l'Église, elle est avec les laïcs. Il faut que plus d'hommes et plus de femmes se mettent au service de Dieu. Oh, pas pour devenir des prédicateurs peut-être, mais pour être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas suffisamment insisté sur le sacerdoce de tous les croyants. De tous les croyants. Jésus et les apôtres n'étaient pas des prêtres. Et le Seigneur attend de son peuple aujourd'hui quelque chose de plus. Il faut arrêter de dire « Mais nous avons un pasteur, nous le payons, c'est à lui à tout faire. » C'est vrai que vous avez un pasteur, vous le payez, mais pas pour tout faire. Il a un travail bien défini, travail que Dieu lui a donné. Donc il faut laisser de la place aux laïcs. Car jusqu'à ces jours, jusqu'à ces années dernières, on peut dire que il y avait dans nos assemblées des capitaux gelés. Eh bien, il faut les dégeler. Et déjà dans nos assemblées, grâce au prophétisme, grâce aux dons spirituels, beaucoup ont commencé à travailler pour le Seigneur. Beaucoup commencent à faire quelque chose pour Dieu. Il faut davantage de théologie du laïc. Davantage. Mais attention, il faut que les laïcs servent dans l'Église, et je répète, servent dans l'Église. On n'a pas besoin de gens pour commander dans l'Église. On a besoin de gens pour servir. Car très souvent, lorsque des hommes veulent faire quelque chose dans nos assemblées, c'est pour commander. Lorsque je suis arrivé à Marseille, il y a 27 ans, c'était hier, j'avais 15 anciens dans l'assemblée. 15 anciens pour me donner des ordres. Alors un jour, je pourrais écouter, j'ai besoin de 15 anciens pour m'aider, mais pas de 15 anciens pour me donner des ordres. Cette semaine, on a demandé à Platini pour quelle raison il était fâché avec la presse. Alors il a donné cette réponse. Il a dit, je suis fâché avec elle parce qu'il me fatigue. Ils sont toujours en train de me donner des conseils et des ordres. Il y a alors à 19 ans ou 20 ans, j'acceptais tous les conseils et tous les ordres. Mais maintenant que je vais terminer ma carrière d'international, comme l'un, il ne l'a pas dit, c'est moi qui la joue, comme l'un des plus grands footballeurs du monde, qui pourrait lui donner des conseils pour jouer au ballon, celui-là? Allons donc, pour en donner aux autres, mais pas en recevoir. Et dans nos assemblées, nous avons besoin de gens qui nous aident, de gens qui servent, et non pas de gens qui commandent. Et alors le pasteur aura davantage de dons pour l'œuvre du ministère à laquelle il a été appelé en vue de l'édification du corps de Christ. Cela manque dans nos églises. Les pasteurs, ils courent de partout à 8h du matin, ils s'en vont de droite, de gauche. C'est pas leur boulot, c'est pas leur travail. Un pasteur, lorsqu'il se lève, devait prendre son coussin, sa Bible, se tenir à genoux jusqu'à midi devant la présence du Seigneur, sans être dérangé par personne, afin d'être rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il va dans une réunion apporter la bonne parole de Dieu, qui descend droit au fond des cœurs, qui bouleverse les consciences, qui apporte la révélation qui vient d'en haut. Et si les laïcs se mettent à faire quelque chose, certainement nous connaîtrons des temps bénis. Autre chose encore avant de terminer, chers amis, avant d'être baptiste, avant d'être salutiste, avant d'être darbiste, avant d'être pentecôtiste, soyons donc des chrétiens.
Amen.
D'abord des chrétiens. Ne soyons pas attachés à nos dénominations comme des crustacés sur les rochers. Mais pour défaire les moules, hein, c'est pas facile. Et pour qu'un évangélique change de dénomination, croyez-moi, c'est encore plus difficile. Ce confessionnalisme doit disparaître du milieu de nous. Et nous devons être des chrétiens. En Chine ou dans les pays d'Est que nous visitons assez régulièrement, nous voyons que toutes les dénominations s'effondrent devant la persécution. Ils sont des chrétiens, des frères en Jésus-Christ. Je me trouvais il n'y a pas très longtemps à Arad, en Roumanie. Alors, le pasteur de Banco m'a montré son église dans laquelle j'ai prêché, une église magnifique. Je lui ai dit, combien avez-vous de membres, frère, ici? Il dit, nous avons 5000 membres ici. Et puis, il y avait un monsieur à côté de lui, il me l'a présenté. Il m'a dit, ça, c'est le pasteur Baptiste. Ah bon? Et ensemble, vous faites bon ménage, très bon ménage. Pas toujours la même cuisine, la nôtre est un peu plus épicée, mais voyez-vous, on fait quand même bon ménage. Et je lui ai dit, combien a-t-il de membres dans son église? Il dit, 5000. Alors 5000 lui, 5000 nous, ça fait 10 000. Voilà, ça c'est l'avenir de l'église. L'avenir de l'église de Jésus-Christ. Comme au premier siècle, on était ou du dehors ou des nôtres. C'est ou l'un ou l'autre. Ou on est avec Jésus-Christ, né de nouveau. Ou alors on est extérieur. Et enfin, l'avenir de l'Église appartient aux missionnaires. Les Églises missionnaires. Je sais ce que vous faites pour la mission. Je le vois sur les comptes rendus. 20 000 francs par mois, 2 millions par mois, 24 millions par an. Vous êtes la première Église de France pour soutenir les missions. Et vous faites bien de le faire. Il y a aujourd'hui deux grandes choses qui devraient nous préoccuper. La mission et les émissions de radio et de télévision. Seul moyen de porter l'évangile jusqu'aux extrémités du monde. En 3 siècles, les chrétiens ont envahi le monde. Les chrétiens de la primitive Église. Alors on pense qu'aujourd'hui, ces choses ne sont plus possible, mais en 30 ans, la Corée du Sud est devenue à majorité chrétienne. Et lorsque je dis chrétienne, je dis constituée par des chrétiens engagés, par des chrétiens actifs. En 30 ans, un pays a basculé dans le christianisme. Et ça, voyez-vous, c'est merveilleux. Que dire de la percée formidable, fabuleuse, en Amérique latine? Tellement que lorsqu'un président d'un de ces États n'est pas content de ce que dit l'évêque, eh bien il va chez nos frères pentecôtistes. Alors c'est la guerre, vous n'avez pas lu sur la presse la dernière fois, il y avait tout un article au sujet d'un président d'un pays que je n'aimerais pas. Il était fâché avec son évêque et il est allé au culte dans l'église de Pentecôte. Parce que cette église de Pentecôte, elle a 40 000 membres. Seule église, 40 000 membres. C'est l'avenir, voyez-vous. Les chrétiens engagés pour notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la race blanche n'est plus majoritaire. Avant, nous étions majoritaires, nous, la race blanche, les chrétiens les plus nombreux étaient ici, maintenant, nous sommes minoritaires, nous les blancs. L'Europe est sans christianisme. Les gens ont abandonné Dieu, ils ont abandonné la parole de Dieu, ils ont même abandonné la religion. Et demain, ces gens que nous avons aujourd'hui évangélisés, que nous avons amenés à Jésus-Christ, demain, ils viendront nous prêcher l'Évangile en Europe. ce sont les Noirs d'Afrique. Ce sont les jaunes de Corée qui viendront nous annoncer la parole de Dieu. Donc tout ce que nous aurons fait pour eux, tout ce que nous avons fait et tout ce que nous faisons encore aujourd'hui n'est pas perdu. Nous allons le retrouver dans peu de temps. Et je termine en disant que l'avenir ne connaîtra que deux formes d'église. Le catholicisme, avec ses dogmes et ses traditions, église de multitude, où les gens ne sont ni sauvés, ni régénérés dans leur ensemble, donc l'église catholique et le baptisme. Le baptisme composé de gens nés de nouveau, de gens convertis, de gens baptisés.